Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Alexia Germont, avocate et présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Alexia Germont, la France préside l'Union européenne depuis le 1er janvier. Emmanuel Macron a organisé en fin d'année une conférence sur cette présidence. 2022 doit être l'année d'un tournant européen, a dit le chef de l'État lors de ses vœux aux Français. Il a notamment mis en avant le rôle de l'Europe dans la distribution des vaccins et l'organisation de plans pour relancer l'économie. Le rôle de l'Union européenne a-t-il été prépondérant pour lutter contre la pandémie ?
À mon sens, oui, d'ailleurs beaucoup plus prépondérant que ce que l'ensemble de nos concitoyens réalisent en quelque sorte. Parce que évidemment, il faut rappeler que au sein de l'Union européenne, vous avez uniquement une compétence d'appui en matière sanitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Union encourage la coopération et va simplement compléter les politiques nationales sans s'y substituer. Donc ce n'était pas une compétence principale, bien sûr. Mais en dépit de ça, l'Union a fait beaucoup pendant cette pandémie, notamment avec une meilleure coordination entre les États membres sur le pass sanitaire européen, par exemple, sur la reconnaissance des tests et leur validité dans chacun des pays. Également le rôle de l'Agence européenne du médicament, vous vous en souvenez, avec l'instrument d'aide d'urgence aussi. Et puis, à côté de ça, il n'y a pas eu que le sanitaire. Il ne faudrait pas réduire le rôle de l'Union européenne pendant la pandémie au sanitaire, puisqu'elle s'est bien sûr appuyée sur ses compétences propres. Je pense notamment à l'engagement financier, avec, bien sûr, tout le monde l'a en tête, le plan de relance de 750 milliards d'euros qui a été financé par un emprunt qui a été contracté par la Commission européenne et qui a été garanti par les États membres et dont la France va bénéficier à hauteur environ de 40 milliards d'euros. Mais il n'y a pas eu que ça aussi sur la partie financière, puisque il faut se souvenir qu'il y a eu la mobilisation des programmes et des fonds du budget pluriannuel. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, puisqu'entre 2021 et 2027, vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, contrairement à la France, ce sont des budgets pluriannuels, ce qui vous donne en même temps un peu plus de souplesse, parfois pour pouvoir tirer par anticipation. Et puis, vous avez eu la clause dérogatoire aux règles budgétaires qui ont été levées pendant la pandémie.
Pour que l'on comprenne bien ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent, Alexia Germont, est-ce qu'on peut rappeler le rôle de la présidence tournante de l'Union européenne ? Est-ce qu'Emmanuel Macron aura un pouvoir décisionnel ?
Alors, très franchement, pouvoir décisionnel d'Emmanuel Macron, non. En revanche, un pouvoir que je qualifierais d'empreinte et d'orientation, oui. Je m'explique. D'abord, le Conseil de l'Union européenne, c'est une institution à part entière, au même titre que le sont le Parlement européen ou la Commission européenne. D'ailleurs, dans le livre que j'avais publié « Réveillons notre Europe » en 2018, ça date un peu maintenant, mais je m'étais vraiment attachée à expliquer le rôle de chacune des institutions, parce que à force de ne pas comprendre ce que chacune de ces institutions fait, on finit par perdre le fil. Finalement des pouvoirs réels de l'Union européenne. Donc, vous avez le Conseil de l'Union européenne qui est le co-législateur, d'accord ? Ce qui veut dire que vous avez la réunion des ministres des États membres et vous avez en fait une dizaine de formations thématiques qui sont coordonnées. Et il y a également, en parallèle de cela, la compétence en matière budgétaire. Donc, on voit bien que c'est assez large, mais pour parler d'un pouvoir décisionnel d'Emmanuel Macron en tant que tel, non. J'insiste sur une chose, parce que je trouve qu'on fait trop peu la différence en ce moment. On parle souvent de présider l'Europe. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une présidence de l'Europe. C'est une présidence vraiment du Conseil de l'Union européenne, d'autant que depuis 2009, depuis le traité de Lisbonne, les compétences des présidences, hein, pas que françaises, mais des présidences, ont été plutôt réduites. Donc c'est un pouvoir d'influence, et c'est très important déjà, sur l'ordre du jour ou sur la mise au vote des résolutions, avec, pour être synthétique, je dirais, quatre grandes attributions que l'on peut isoler. Vous avez d'une part l'organisation des réunions des ministres des 27 États membres. D'autre part, vous avez une compétence en matière de pilotage des travaux législatifs au Conseil, et donc avec toute la notion d'élaboration des compromis. Et vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, c'est très important, on gouverne avec des compromis, contrairement à ce qu'on fait en France. Le troisième point qui me paraît important, c'est d'assurer la coopération entre tous les États membres, parce que là, vous pouvez être force de proposition, bien évidemment. Et puis, ne pas oublier, parce que c'est souvent face à l'urgence, pour le coup, vous avez, c'est à la présidence, de gérer l'actualité internationale de l'Union européenne. Donc, vous voyez bien que s'il peut y avoir, à certains moments, des sujets internationaux qui émergent, eh bien, c'est à la présidence française, à ce moment-là, qu'il reviendra d'être aux manettes. Mais tout ça se mettant dans ce qui est nouveau, dans ce qu'on appelle un trio de présidence, pour justement être le plus cohérent possible. Après, vous aurez la République tchèque et la Suède. Eh bien, ça se fait déjà en coordination avec les deux prochaines présidences, ce qui est intéressant, hein.
Alexia Germont, selon vous, sur quels dossiers européens Emmanuel Macron est-il susceptible d'agir avant le premier tour de l'élection présidentielle en France ?
Ça, c'est une vraie question. D'abord, il y a, vous le mentionnez de vous-même, même si la présidence du Conseil de l'Union européenne dure jusqu'à fin juin, en réalité, vous avez une accélération du calendrier pour des raisons évidentes de campagne présidentielle sur le premier trimestre. Parce que ça permet évidemment au président de la République de s'appuyer sur un éventuel bilan qu'il arrivera à faire passer. Donc sur les dossiers qui sont raisonnablement attendus, et on verra ce que dit le président de la République dans son discours de cadrage qui est attendu le 19 janvier, mais vous avez bien sûr des sujets attendus sur l'Europe sociale. Alors ce n'est évidemment pas un SMIC unifié hein, qui est attendu, mais ce serait beaucoup plus, je vais parler d'un cadre commun pour les salaires minimaux. Vous avez tout le dossier souveraineté stratégique qui a été vraiment mis en avant pendant la pandémie et sur lequel des avancées sont attendues. Le paquet lié à la transition climatique, bien sûr, notamment avec un sujet un peu barbare parfois et abscon quand on parle de taxonomie européenne, mais la taxonomie européenne n'est rien d'autre qu'une liste européenne des investissements verts qui serait d'ores et déjà fléchée. Et puis, vous avez tout le pan de l'Europe qui doit à nouveau se protéger hein, face à la concurrence déloyale étrangère. Et là, on attend beaucoup plus des mesures en matière de politique commerciale, où on attend une Europe plus offensive, notamment sur la question de l'accès qu'elle peut avoir, elle, vis-à-vis des marchés publics internationaux. Et puis, bien sûr, dans l'autre sens, c'est-à-dire le contrôle par l'Europe de l'accès au marché public européen avec des entreprises ultra subventionnées de pays tiers. Je parle bien entendu en filigrane, notamment de la Chine. Donc ce sont vraiment les sujets sur lesquels raisonnablement on peut attendre une avancée avant le premier tour.
Alexia Germont, Emmanuel Macron a insisté sur un concept assez nouveau d'autonomie stratégique, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est un concept qui a été remis au goût du jour par la pandémie du Covid. L'Union européenne doit-elle affirmer son autonomie sur le plan militaire, commercial et même sanitaire ?
De toute façon, d'un point de vue général, on voit bien que vous assistez en ce moment, on assiste tous à un mouvement de tectonique des plaques géopolitiques hein, qui place l'Europe de façon centrale face aux États-Unis, à la Chine et également à la Russie. Donc, dans ce cadre-là, renforcée par ce que tout le monde a ressenti lors de la crise sanitaire, c'est-à-dire le fait que nous ayons reculé sur notre souveraineté en matière industrielle, en matière sanitaire. Il y a eu ces pénuries qui ont fait toucher du doigt finalement aux concitoyens européens du recul. Je crois qu'il faut bien stopper le déni et dire franchement les choses, du recul en fait sur le plan mondial d'un certain nombre des atouts que nous avions par le passé. Donc quand on parle d'autonomie stratégique, pour revenir à votre question, vous avez trois piliers: le pilier militaire, le pilier commercial et le pilier sanitaire. Alors, sur le militaire, vous aviez un temps l'idée d'un sommet spécial défense qui était prévu en mars et finalement qui a l'air d'être un peu remis en cause, mais qui en revanche sera certainement dans le top des priorités de l'ordre du jour du sommet mi-mars, qui est attendu, avec une difficulté quand même, si on parle de façon assez transparente, c'est qu'il y a toujours cette ligne de crête à adopter entre l'accroissement, bien sûr, de l'autonomie stratégique européenne, mais sans empiéter sur les missions de l'OTAN. Ça, c'est du point de vue militaire, et c'est pas une mince affaire. Donc, on a notamment, pour être assez concrète, l'idée d'une mise en place d'ici 2025 de ce qu'on appelle le groupe d'intervention rapide, qui serait constitué d'environ 5000 hommes et qui serait non dépendant des moyens européens. Et ça serait un des visages finalement de cette autonomie militaire. À côté de ça, on a, j'en ai déjà parlé rapidement, mais le renforcement des grands intervenants européens sur la scène commerciale, hein, en termes de notamment de renforcement de l'industrie. Ça, c'est vraiment un travail auquel s'est attelé aussi Thierry Breton. Et puis, vous avez tout le renforcement de la souveraineté sanitaire, mais qui passe par le biais de la mise en place d'une Europe de la santé, bien entendu.
Alors, vous parlez de l'Europe de la santé. Cette pandémie de Covid a désorganisé le continent européen. Même si l'on vient à bout du Covid, il faudra mettre en place une Europe de la santé pour se préparer à de nouveaux risques, par exemple.
Oui, je crois que c'est maintenant quelque chose qui est dans toutes les têtes, sachant que, vous savez que j'aime bien remettre les choses en perspective, mais ça ne date pas. Regardez, en 2017, vous avez eu un livre blanc qui a été présenté par la Commission européenne et qui pourtant, à l'époque, listait la santé comme un des programmes dont l'Union européenne pouvait se désengager. Et vous voyez bien, finalement, depuis 2017, le chemin qui a été parcouru et le choc qu'a constitué, la prise de conscience, hein, pour le coup très positive, qu'a constitué la pandémie. Donc depuis, vous avez eu, mis à part la pandémie, aussi le changement climatique et la pollution qui ont des impacts sur la santé, plus le Covid, bah tout ça met l'Europe de la santé comme une nécessité à construire. Alors, si je m'attarde 30 secondes là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux pans sur lesquels il faut travailler, qui sont deux pans distincts. Vous avez à la fois le système de santé européen, on voit bien ce que ça pourrait recouvrir, et puis vous avez la question de la sécurité sanitaire, qui sont deux sujets totalement distincts, mais qui doivent marcher l'un dans l'autre ensemble. Comment faire cela? Ben, vous avez plusieurs choses. Vous avez d'une part des leviers d'action qui sont déjà existants mais qui pourraient être renforcés, et puis vous avez également des structures qui pourraient être renforcées. En termes de leviers d'action, à quoi on peut penser? Vous pouvez penser à la capacité de recherche, l'approvisionnement et de production des États membres qui pourraient être renforcés. Vous avez tout le travail autour de la passation conjointe des marchés, c'est très opérationnel mais c'est très efficace. L'amélioration des liens publics-privés, l'harmonisation des réglementations, bien sûr, avec notamment tout le travail autour des mesures sanitaires, des essais cliniques, et puis les modalités de financement qui sont prévues dans le plan de relance, notamment EU for Health ou bien les fonds structurels. Et puis si je fais un petit focus sur les structures européennes sanitaires à renforcer, on pense bien évidemment à l'Agence européenne des médicaments, hein, dont on a vu le rôle dans la pandémie, et ça permettrait finalement, tout cela permettrait à la Commission de pouvoir identifier les politiques à renforcer au niveau européen, notamment en matière de dépistage, de prévention, tout le travail autour de l'échange des données, et puis l'autonomie stratégique industrielle. Donc vous voyez bien l'approche de santé globale, tout cela se faisant en lien avec les objectifs de développement durable 2030 portés par l'ONU, bien sûr.
Lors de ses vœux, le chef de l'État a souhaité un meilleur encadrement des grandes plateformes de l'Internet. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut réussir en moins de 4 mois, en 3 mois finalement, à faire avancer un projet européen de régulation des GAFAM, ces grandes entreprises comme Google, qui sont plus puissantes que des États ?
Oui, vous avez raison de dire qu'elles sont plus puissantes que des États. Et pour répondre à votre question, c'est pas une réponse en l'air, c'est simplement de voir l'état d'avancement des textes, parce qu'il n'y a que ça de vrai en matière européenne. Vous savez que c'est le cheval de bataille qui est porté par Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, avec deux axes pratiques. Il y a d'une part le Digital Services Act qui vise les contenus en ligne et vous avez d'autre part le Digital Market Act et là qui pose le cadre d'une concurrence plus juste. Alors, il y a une bonne nouvelle en la matière, c'est pour ça que sur ce sujet-là, je suis plutôt optimiste, pas sur tous, mais sur celui-là, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté commune entre le Conseil et le Parlement européen, avec des positions respectives et du Conseil et du Parlement européen, qui sont proches et qui surtout ont déjà été adoptés. Donc vous voyez bien que vous avez dans la trilogie pour faire avancer la législation européenne, vous avez déjà deux des trois institutions qui sont déjà d'accord avec des textes qui sont pré-préparés. Et le rôle de la France, ça je pense que c'est à sa portée demain, eh bien c'est de faire dialoguer ce fameux trilogue législatif.
L'un des dossiers les plus difficiles est peut-être celui de l'immigration. Emmanuel Macron veut une réforme de l'espace Schengen. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
Bon, alors d'abord, c'est au cœur des débats de la présidentielle française, donc il ne peut pas faire l'économie de ce sujet-là, sur lequel il y a un constat évident de fossé entre les États membres. Alors, il y a une proposition qui est attendue de la France, ce serait un peu à l'instar de ce que l'on faisait sur l'Eurogroupe, c'était d'ailleurs une des propositions que je faisais aussi dans mon livre, c'est la création d'un pilotage politique de Schengen, avec notamment la mise en place d'un mécanisme de soutien d'urgence en cas de crise. Et ça, on voit bien que c'est réclamé par les États membres, c'est réclamé évidemment par les populations des États membres, mais il y a un sujet de difficulté, c'est que la Commission européenne n'a pas encore fait de proposition en ce sens. Donc contrairement aux dossiers précédents, notamment sur les GAFAM, où au moins il y a des textes sur lesquels on peut s'appuyer, là c'est une volonté politique qui va être tentée, mais qui n'est pas forcément préhensible, je vais dire, avant le premier tour des élections présidentielles françaises, à mon sens.
Merci Alexia Germont. Je rappelle que vous êtes avocate et présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Et je rappelle le titre de ce livre que vous avez publié en 2018, Réveillons notre Europe, l'envie d'une Europe enfin audacieuse. Bonsoir.
Bonsoir et merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.